VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce lundi 11 mai 2015. À la une ce soir.
L'Union européenne, les États-Unis et la Suisse appellent à un report des élections au Burundi.
Clôture du forum de réconciliation à Bangui par la signature de l'accord entre le gouvernement et plusieurs groupes armés.
Opération Ville Morte à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour protester contre les massacres de civils dans la région.
Crise au Yémen, les frappes de la coalition continuent à la veille d'une trêve humanitaire de 5 jours.
Pour la première fois depuis le début de la crise en Ukraine, le président Vladimir Poutine rencontre le secrétaire d'État américain. Une rencontre prévue demain.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Le point sur les troubles électoraux au Burundi, alors que les manifestations s'opposant à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, ils se poursuivent. L'Union européenne, les États-Unis et la Suisse appellent à un report des élections. C'est dans ce contexte que la Belgique, premier partenaire du processus électoral, prend ses distances avec Bujumbura. Le point avec Timothée Donangmaï.
Nous avons encouragé fortement le gouvernement burundais à prendre des mesures d'apaisement et l'idée d'un glissement du calendrier électoral serait à nos yeux une bonne chose, a déclaré l'envoyé spécial de l'UE pour la région, Kurt Verwijker, qui s'exprimait aussi au nom de la Suisse et des États-Unis. Les Pays-Bas et la Suisse ont annoncé la suspension de leur aide électorale au Burundi, emboîtant le pas à la Belgique. En réaction à la répression policière à l'encontre des protestations, l'ex-puissance colonisatrice a suspendu le versement de 2 millions d'euros destinés à soutenir les élections au Burundi. Elle a également interrompu sa coopération policière avec Bujumbura. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burundi a jugé que les conditions pour des élections libres n'étaient pas réunies pour l'instant, explique le vice-premier ministre Alexander De Croo. Le coût du processus électoral est estimé par Bujumbura à quelque 60 millions de dollars. Le Burundi dit pouvoir en assumer 21 millions.
Clôture du forum de Bangui sur la réconciliation nationale. Les délégués devant proposer une sortie de crise en RCA demandent le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard en août. D'après l'AFP, le forum de Bangui en appelle donc aux autorités de transition pour qu'elles introduisent au plus tôt auprès de la communauté économique des États d'Afrique centrale la demande de prorogation à titre exceptionnel de la transition et donc le report des élections réclamées par la communauté internationale.
Opération Ville Morte à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les habitants dénonçaient ainsi l'inefficacité de l'armée et des autorités après un énième massacre de civils dans la région. Les miliciens des ADF sont soupçonnés d'avoir tué plus de 300 personnes depuis octobre. Le dernier massacre de vendredi aurait fait 7 morts.
Au Burkina Faso, les responsables des médias réagissent à la suspension de 3 mois des émissions interactives ordonnées la semaine dernière par le Conseil supérieur de la communication. Le CSC a dit craindre les dérapages verbaux alors que le pays doit tenir des élections en octobre prochain. Au micro d'Idriss Fall, Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo.
La fin de plein mauvais enjeux, à savoir essentiellement la situation des journalistes du Burkina, le syndicat autonome des travaux de l'information et de la culture cinématique et de la société des éditeurs de la presse privée. Nous sommes contre cette mesure. Parce qu'en réalité, c'est un recul assez grave par rapport à la liberté d'expression et de presse. Surtout que cette mesure intervient 4 jours après la journée de la commémoration de la journée internationale de la presse, où au niveau national, par exemple, nous avions comme thème médias d'État ou médias de service public, quel avenir et quelle perspective. Depuis le combat que nous avons mené après l'assassinat de notre confrère Norbert Zongo, en pleine lutte à l'époque avec ce qu'on appelait Radio Entreparler, le gouvernement de la 4e République avait pu interdire ça. Mais par la suite, avec les différentes luttes, les médias ont pu quand même, la société civile, les organisations des droits de l'homme et autres, on a pu arracher quand même les espaces de liberté afin de permettre aux citoyens de s'exprimer et de donner leur opinion sur la gouvernance politique. C'est pourquoi nous sommes étonnés que le CSC, sans même approcher les médias, a décidé de suspendre donc cette émission interactive sans même concerter qui que ce soit. Nous pensons que c'est une volonté affichée de faire en sorte que les citoyens ne puissent pas même se prononcer. Et surtout, cela intervient souvent dans le cadre de ce que les anciens dignitaires appellent l'exclusion.
Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo au Burkina Faso.
Guinée, l'ex-dirigeant militaire, le capitaine Moussa Dadis Camara, en exil au Burkina Faso, a déclaré aujourd'hui à Ouagadougou qu'il est candidat à la présidentielle en Guinée. Il a créé son parti Force patriotique pour la démocratie et le développement.
En Côte d'Ivoire, les évêques catholiques mettent en garde. Une élection présidentielle apaisée en octobre passe par le désarmement des ex-combattants. Dans une déclaration transmise à l'AFP, la conférence épiscopale salue le retour progressif à la vie civile de plusieurs ex-combattants, soulignant toutefois que beaucoup reste à faire et que les rancœurs, les tensions, les frustrations, les traumatismes sont toujours présents en Côte d'Ivoire.
Crise humanitaire au Soudan du Sud, plus de 300 000 civils se trouvent sans assistance de base dans l'état d'unité dans le nord du pays. L'ONU a en effet annoncé son retrait en raison des combats qui sévissent dans la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite ne sera pas au sommet américano-arabe convoqué cette semaine à Washington par le président Barack Obama. C'est ce qu'a annoncé hier son ministre des Affaires étrangères Adel Al-Joubeir, annulant également une réunion à la Maison-Blanche qui avait été annoncée il y a seulement quelques jours. Lionel Gaïma.
C'est mercredi que doit s'ouvrir le sommet en présence des délégations des 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe en visite à la Maison-Blanche, avant de se poursuivre jeudi avec de pourparlers à Camp David avec le président Obama. Selon M. Joubeir, le roi Salman envoie à sa place le prince héritier Mohammed bin Nayef. Il explique que le sommet coïncide avec le cessez-le-feu de 5 jours et les efforts humanitaires au Yémen voisin, où l'Arabie saoudite a mené une campagne de frappe aérienne contre les rebelles chiites Houthis. Un officiel de l'administration Obama a dit que ce changement n'était pas, et je cite, « en réponse à une quelconque question substantielle ». Avec l'absence du roi Salman, seul l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et celui du Koweït Sabah Ahmad Al Sabah dirigeront les délégations de leur pays. Le sultan d'Oman Qaboos bin Saïd et le président Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis disent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de Washington pour des raisons de santé. En revanche, aucune explication sur le fait que la délégation de Bahreïn sera dirigée par le prince héritier plutôt que par le roi Hamad bin Issa al-Khalifa. La semaine dernière, un porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schulz, avait dit qu'il y aurait à ce sommet des discussions sur le renforcement de la coopération sécuritaire avec les nations du Golfe et la recherche d'approches communes concernant les conflits en Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen. Les pourparlers porteront vraisemblablement aussi sur les négociations au sujet du nucléaire iranien et les préoccupations des États du Golfe selon lesquelles Téhéran obtiendrait la levée des sanctions tout en préservant sa capacité à fabriquer une bombe atomique.
Au Yémen, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce lundi, dont de puissantes explosions déclenchées par 2 raids aériens de la coalition. Selon des sources médicales, les frappes visaient un dépôt d'armes tenu par la rébellion chiite près de Sanaa, la capitale.
Le président russe Vladimir Poutine doit recevoir demain à Sotchi le secrétaire d'État américain John Kerry pour des pourparlers cruciaux sur fond de tensions liées au conflit en Ukraine.
Les autorités judiciaires du Mississippi, dans le sud des États-Unis, ont inculpé 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre de 2 policiers samedi soir. D'un autre côté, les États-Unis sont sur la sellette aux Nations Unies à cause des bavures policières, en particulier contre les minorités. Saloua Jafari nous en dit plus.
La petite ville de Hattiesburg dans le Mississippi n'avait pas enregistré d'attaque meurtrière contre un policier depuis 30 ans. Cette statistique a changé samedi soir quand Benjamin Dean, 34 ans, et Lee Coritat, 24 ans, ont été abattus alors qu'ils venaient d'arrêter un automobiliste. C'est en tout cas la version officielle. Ils ont été transportés à l'hôpital mais n'ont pas survécu. Selon le Bureau de la Sûreté de l'État du Mississippi, 2 suspects âgés de 29 et 22 ans sont accusés de meurtre et passibles de la peine capitale. 2 autres, dont un frère de l'un de ces 2 accusés, ont été inculpés pour complicité et obstruction à la justice hier dimanche. Au moins un des accusés a clamé son innocence. Ce double meurtre est venu rappeler les conditions dangereuses entourant le métier de policier, à un moment où les hommes en bleu sont sujets à de fortes critiques suite à des cas répétés de brutalité et de meurtres de noirs non armés dans le Mississippi, l'Ohio, à New York, plus récemment à Baltimore, dans le Maryland. Au plan international, la situation a fait l'objet d'une session ce lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans le cadre d'une évaluation annuelle, le Conseil a exprimé sa préoccupation face à l'usage excessif de la force par les policiers américains contre les minorités. Des appels ont également été lancés en faveur de l'abolition de la peine de mort aux États-Unis. Selon Human Rights Watch, les autorités américaines n'ont pas mis en œuvre la plupart des recommandations qu'elles avaient acceptées lors de la précédente évaluation en 2010.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le gouvernement du Tchad veut retarder le remboursement d'environ 1,5 milliard de dollars empruntés au consortium bancaire Glencore PLC. L'objectif de N'Djamena est d'avoir de la liquidité après l'effondrement des prix du brut et son intervention dans la guerre contre Boko Haram au Nigeria. Le rééchelonnement de cette dette contractée en 2013 et 2014 va permettre au gouvernement tchadien d'économiser 400 millions de dollars, selon un document du ministère des Finances présenté le mois dernier au Fonds monétaire international. Mais une telle option pourrait pénaliser de la vie des experts les banques qui ont avalisé le crédit, dont le Crédit Agricole, la Deutsche Bank, Natixis et la Société Générale. Le nouveau taux de change du Dalassi, la monnaie gambienne par rapport au dollar américain et d'autres devises internationales a entraîné un ralentissement de l'activité lucrative du secteur du bois en Gambie, alors que les exportateurs préfèrent désormais acheter le bois local en dollars au lieu du Dalassi, selon l'agence africaine de presse. Le gouvernement gambien a annoncé la semaine dernière un nouveau taux de change du Dalassi entre 35 et 45 Dalassi pour 1 dollar par rapport au taux précédent de 50 Dalassi pour 1 dollar. En Guinée-Bissau, l'entrepreneur Brahima Camara a été réélu dimanche soir à la présidence de la Chambre de commerce, d'industrie, de l'agriculture et des services selon des résultats provisoires. M. Camara a obtenu 1278 voix, soit 92% des suffrages, à l'issue d'une élection face au jeune entrepreneur Brahima Kanté qui s'en est sorti avec 109 voix.
C'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Et nous passons tout de suite à la page sport, Morgane.
Coup d'envoi du 24e tour cycliste du Togo.
Et oui, les premiers coups de pédale ont été donnés ce lundi. La première étape a amené le peloton de Lomé à Atakpamé sur 145 km, soit la plus longue étape du circuit de cette année. Deux coureurs burkinabés se sont imposés à l'arrivée. Et on a joint Anani Asiongbon, président de la Fédération togolaise de cyclisme.
Normalement, le tour devait prendre son départ le 13 avril. Du 13 au 19, il devait se dérouler le tour. Mais compte tenu de la situation politique, les élections présidentielles, ça a été reporté du 11 au 17 mai. Donc aujourd'hui, nous avions pris le départ pour la première étape qui vient de se terminer à Atakpamé avec la victoire de deux Burkinabés, premier, deuxième, le troisième, un Ghanéen. Donc, nous venons de terminer la première étape et tout juste après l'étape, il y a un transbordement sur Sokodé pour préparer l'étape de demain qui doit démarrer à Sotoboa.
Anani Asiongbon, président de la Fédération togolaise de cyclisme.
En football, nouvelle affaire de violence dans les stades congolais.
La rencontre entre Sangabalende et Vita Club s'est terminée sur un match nul 3-3. Et dans la violence, hier, à Mbujimayi, c'est dans la confusion totale, gaz lacrymogène et jet de pierre que les supporters ont quitté le stade Chikisha.
À suivre demain, la Ligue des champions en Europe.
Oui, à l'Allianz Arena, le Bayern devra remonter 3 buts de retard, Morgan, face au FC Barcelone.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Bam, c'est ainsi qu'ils le disent ici. Washington Wizards face à Atlanta, basket de la dernière seconde pour remporter le troisième match de la série. Et Cleveland est revenu à la hauteur de Chicago dimanche dans leur duel du deuxième tour des playoffs NBA. La seconde rencontre de la journée a été beaucoup moins accrochée. Les Clippers ont surclassé les Rockets dans le troisième carton pour s'imposer finalement 128 à 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Jérôme Dorcel et Morgane Guériac, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Au Cameroun, une moyenne de 45 enfants voient le jour chaque mois dans le camp de réfugiés nigérians de Minawao. Et selon les agences caritatives, la plupart d'entre eux n'ont pas d'acte de naissance. Le gouvernement du Cameroun et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont commencé à combler cette lacune en donnant eux-mêmes des bulletins de naissance aux bébés, dans l'espoir que ces documents seront acceptés par le gouvernement nigérian quand les réfugiés retourneront chez eux. Le correspondant de la VOA, Moke Edwin Kinzeka, a visité le camp de Minawa, dans le nord du Cameroun. Son reportage vous est présenté par Eddie Sango.
Isaac Luka est le leader des réfugiés des Minawa. Il salue ici les travaux des agences humanitaires.
Nous sommes très reconnaissants parce que nos enfants vont jouir de leurs droits civiques. Nous remercions le gouvernement du Cameroun et les patrons des partenaires du HCR, les différentes agences onusiennes, sans oublier les organisations non gouvernementales, pour leur attention.
Théophile Ngweya Beina est le plus haut responsable camerounais de la région. Il explique que la reconnaissance des droits des enfants nigérians à un bulletin de naissance a commencé à se concrétiser après des négociations entre le gouvernement camerounais et les HCR. Légalement, les droits de tous les enfants à un bulletin de naissance et à une existence légale a été respecté. Socialement, ces enfants ne sont pas responsables de ce qui s'est passé dans leur pays. Ils sont vulnérables et le gouvernement du Cameroun ne peut pas rester les bras croisés et laisser cette situation persister. Gerasim Bayorem du HCR précise que ces bulletins de naissance ne donnent pas la nationalité camerounaise aux enfants des réfugiés nigérians. Mais en établissant un dossier officiel sur leur lieu de naissance et leurs parents, les enfants pourront un jour réclamer légalement leur propre nationalité nigériane. Gerasim Bayorem explique que les enfants ont le droit, partout où ils voient le jour, d'obtenir un bulletin de naissance. Et si, dans un pays différent de celui de leurs parents, ils ont, une fois adultes, jusqu'à 18 ans pour décider d'être citoyen de ces pays, si sa constitution les lui permet, en vertu de jus soli, le fait qu'il est né là-bas. Certaines mères n'ont aucune idée de l'importance d'un bulletin de naissance. Benjamin Mambou de l'ONG International Emergency and Development Aid soutient que des efforts sont faits pour éduquer les femmes qui refusent de donner les noms de leurs enfants ou de coopérer avec les agents chargés de l'enregistrement des naissances.
Nous continuerons de les sensibiliser. Nous le ferons et ce sera fait. Nous l'assurons. Ils iront chez eux, le gouvernement du Nigeria s'occupera d'eux, mais ici au Cameroun, nous allons nous occuper d'eux. Nous leur donnerons des bulletins de naissance et nous les aiderons.
Mahamat encourage de son côté les mères à enregistrer la naissance de leurs enfants. Il dit qu'une fois la situation stabilisée au Nigeria et les réfugiés de retour chez eux, une réunion sera organisée avec le gouvernement du Nigeria pour assurer que ces enfants ne fassent l'objet d'aucune discrimination à cause du fait qu'ils sont nés ailleurs. Selon les HCR, plus de 11 500 Nigérians sont arrivés dans les camps de Minawa depuis janvier, des femmes et des enfants pour la plupart. Un millier d'enfants des réfugiés ont reçu jusqu'ici leur bulletin de naissance.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
La méningite continue de faire des ravages au Niger, où les autorités ne parviennent pas à vacciner l'ensemble des populations vulnérables. Certaines voix s'élèvent, estimant que la campagne de vaccination est discriminatoire. Il s'agit notamment d'élèves et d'étudiants qui ne comprennent pas la conduite opérationnelle des équipes médicales. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Depuis plusieurs jours, les cours sont perturbés dans les écoles, les structures d'élèves et d'étudiants réclamant le fameux vaccin sans lequel ils disent ne pas poursuivre les études. Abou Koni Abdelkader est le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey.
Les milieux scolaires et étudiants, lieux de risque de contamination par excellence, du fait de la concentration, sont loin d'attirer un regard particulier de la part de nos décideurs. qui se croient à l'abri car ayant conservé les stocks restants à leur classe sociale. Même ceux de la faculté des sciences de la santé qui sont en contact régulier avec les malades sur leur lieu de stage ne sont pas vaccinés. Nous demandons à ces camarades de suspendre leur participation au stage jusqu'à leur vaccination et exigeons la vaccination des élèves, étudiants et tous les paysans au même titre que le personnel de la présidence, primature et ceux des autres institutions. De même, nous invitons toutes les forces vives de la nation à se mobiliser pour exiger la vaccination de nos concitoyens partout où ils se trouvent.
Que pensent les parents d'élèves de cette situation? Écoutez ces deux pères de famille.
Non, en tant que parent, moi, je demande aux élèves de patienter. Tout simplement parce que son Excellence le Président de la République et le ministre de la Santé et le gouvernement veillent à la santé de toute la population, particulièrement aux élèves. Ce sont des enfants. Ça va venir. On ne doit pas les pousser à boycotter les études. Et nous, on n'a pas souhaité que cette maladie vienne au Niger. Ça vient du bon Dieu.
Les autorités, ils ont fait vacciner leurs enfants depuis le début. Mais pourquoi pas les enfants? Ou bien c'est parce que les parents sont pauvres? Ce ne sont pas des Nigériens? Nous sommes tous égaux. Le gouvernement, il a échoué sur ce plan-là. Le gouvernement a échoué parce que les vaccins doivent être prêts depuis janvier. Maintenant, on est en avril, on est même. C'est normal qu'il aille en grève. Même si c'est un mois que les élèves aillent en grève jusqu'à ce qu'on les vaccine.
Vendredi dernier, un groupe de jeunes a voulu organiser une manifestation spontanée à la place de la concertation pour protester contre cette situation. Il en a été empêché. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger, sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En République démocratique du Congo, l'avenir de l'entreprise d'État Gécamines serait radieux, selon ses dirigeants, évoquant les nouvelles instructions du comité de gestion qui a pour but de relancer la production. Narval Mabila a tendu son micro à Jacques Kamenga, le directeur général de la compagnie.
Le conseil d'administration a mis en place un programme de relance prioritaire. Et vous allez constater que quand vous prenez les statistiques de la Gécamines d'avant septembre 2014, la production ne dépassait jamais 1000 tonnes par mois. Depuis septembre, le conseil d'administration était catégorique, très sévère pour que la décision sur la maîtrise des coûts soit la priorité des priorités et qu'on relance la production. Depuis septembre, la production a tourné en moyenne autour de 1200 tonnes par mois. Au mois de mars, nous venons de réaliser la production de 1658 tonnes. Ce qui est extraordinaire, ça fait plusieurs années qu'on n'a plus réalisé cette production mensuelle. Première décision que j'avais prise, les directeurs techniques passent maintenant plus de temps à Likasi et à Kolwezi plutôt qu'ici à Lubumbashi dans le bureau climatique. Les directeurs techniques sont plus au niveau des sièges de production. Toutes les réunions de production se tiennent désormais à Likasi, à proximité des exploitants, pour que je vive moi-même en réalité tout ce que les exploitants connaissent comme difficulté, au lieu de nous asseoir ici dans nos bureaux climatisés à Lubumbashi. Voilà la première disposition que nous avons prise. Mais il y a aussi l'encadrement permanent des travailleurs. Le conseil d'administration a mis à notre disposition des moyens pour réhabiliter davantage nos usines. Et un peu plus en détail, c'est que les usines fonctionnent normalement. Le concentrateur de Kolwezi fonctionne à merveille. L'usine de cuivre de Kolwezi fonctionne à merveille. Au groupe centre, à Likasi, l'usine de Chitourou fonctionne très bien. Le concentrateur de Kambo fonctionne très bien. Nous avons un nouveau concentrateur HMS qui fonctionne très très bien. Les réserves de l'Echecamine, particulièrement en ce qui concerne le cuivre, aussi autour de 10 millions de tonnes de cuivre presque certifiées. Ça, c'est extraordinaire pour la Gécamines. Parce que les gens ont cru que la Gécamines a tout cédé dans le jeune venture et que la Gécamines n'a plus rien. Nous avons encore beaucoup de réserves. L'avenir est très radieux et tous les espoirs sont permis avec la détermination d'abord du personnel. Et la Gécamines a un projet ambitieux de construction d'une grande usine métallurgique qui va produire dans un premier temps 80 000 tonnes par an. Au niveau des sites de Diziwa à Kolwezi, où nous avons des réserves de plus ou moins 5 millions de tonnes de cuivre. Nous avons un autre projet immédiat, la construction d'une usine métallurgique au niveau de Kambov. Ça sera une usine de 50 000 tonnes par an. Ce sont des grands projets qui donnent beaucoup d'espoir à la Gécamines, étant donné que tous les gisements sont encore intacts.
Jacques Kamenga, directeur général de l'entreprise d'État congolaise Gécamines.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition en Afrique du Sud, a pour la première fois porté un noir à sa tête. Lors d'un congrès tenu à Port-Elizabeth, Moussi Maimane, âgé de 34 ans et originaire de Soweto, a été choisi pour remplacer Helen Zille, qui à 64 ans avait annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat. Pour un éclairage sur le nouveau leader de l'Alliance démocratique, Timothée Donangmai a joint à Johannesburg David Zunminou, chercheur à l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud.
Moussi Maimane est un jeune politicien qui a su gravir très rapidement les marches pour se retrouver dans la position de leadership au sein de l'Alliance démocratique. Il était jusque-là le porte-parole de l'Alliance démocratique à l'Assemblée, pressenti pour jouer un plus grand rôle. Le parti lui a accordé sa confiance. Donc c'est un jeune tribun, c'est également une gueule dans l'arène politique sud-africaine et surtout c'est une jeunesse qui continue d'incarner les valeurs d'unité, les valeurs auxquelles en tout cas le parti s'est engagé depuis la fin de l'apartheid et qui veut tout faire pour briser le monopole de l'ANC sur l'arène politique sud-africaine.
Maimane devient le premier noir à diriger l'Alliance démocratique. Quelle importance revêt ce facteur?
Je pense que l'importance se trouve à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord la confiance accordée à la jeunesse au sein de ce parti conservateur. Parce qu'on a vu jusque-là, après Tony Léon, on a eu Helen Zille, qui est une vétérane de la lutte anti-apartheid, élément qu'on a très peu souligné, et qui a essayé de porter le parti vers la communauté noire. Et c'est là que vient le second point en termes d'importance pour l'élection de Maimane. L'Alliance démocratique s'est rendue compte que la configuration actuelle ne permettrait jamais au parti d'accéder au pouvoir et que si le parti devait vraiment remporter des élections présidentielles et diriger l'Afrique du Sud, il a intérêt à taper dans l'électorat noir. Et aussi, c'est un appel pour simplement renforcer la position de l'Alliance démocratique au sein de la communauté noire, au sein de la jeunesse sud-africaine, en leur offrant une autre image de ce que l'Alliance démocratique a représenté jusque-là, c'est-à-dire le parti des Blancs, dirigé par des Blancs pour la préservation des intérêts des Blancs.
Quelles sont les chances de l'Alliance démocratique avec à sa tête Maimane face à l'ANC?
Je pense que le défi va être colossal pour lui, parce qu'il y a déjà beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire que c'est une marionnette et il va être utilisé comme appât pour glaner les voix des Noirs et elle ne va pas vraiment jouer un rôle substantiel dans la transformation de l'Alliance démocratique. Mais je pense que l'Alliance démocratique a une opportunité de jouer le franc jeu, de lui accorder le soutien dont il a besoin, de l'aider dans sa stratégie de conquête de l'électorat noir, blanc ou métis, pour pouvoir vraiment réaliser un jour le rêve d'assumer le pouvoir.
David Zunminou de l'Institut d'études stratégiques d'Afrique du Sud, joint à Johannesburg.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Muntou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Cette édition touche à sa fin. À la mise en onde ce soir, Lionel et Geima. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Nous disons merci à Cornelius Ténor à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Ciao.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.